D'habitude, quand on visite un musée pour voir un chef-d'œuvre mondialement célèbre, bah on s'attend à une clarté absolue, une sorte d'évidence, quoi. C'est un peu comme admirer un grand monument architectural, genre la Tour Eiffel ou les pyramides d'Égypte.
Ouais, tout à fait. C'est massif, la grandeur nous frappe au visage d'un seul coup.
C'est ça. On comprend immédiatement pourquoi on est là.
On cherche l'impact visuel pur, l'expérience immédiate. En fait, on veut juste pouvoir se planter devant l'œuvre et se dire, ça y est, j'y étais, je l'ai vu.
Sauf que, ben ensuite, on se retrouve au musée du Louvre, on est poussé par une foule incroyablement dense, dans une chaleur souvent étouffante, pour finalement arriver devant une épaisse vitre blindée, et derrière cette vitre, il n'y a pas de monument, il y a un minuscule panneau de bois.
Ah oui, 79,4 cm de haut sur 53,4 de large. C'est vraiment tout petit.
C'est minuscule. Et la femme qui s'y trouve nous regarde avec cette expression flottante qui refuse obstinément de se laisser catégoriser. Et à ce moment précis, l'évidence disparaît. Le monument se transforme en un véritable labyrinthe psychologique.
Et c'est toute la puissance de l'énigme visuelle, en fait. L'observateur non averti pense regarder un simple portrait d'une dame de la Renaissance, alors qu'en réalité, il fixe un abîme de complexité technique, scientifique et historique. C'est un pur trompe-l'œil intellectuel.
Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Notre plongée dans ces archives fascinantes a un but très précis. On va dépasser ce visage figé derrière sa vitre de sécurité pour comprendre pourquoi ce petit morceau de bois de peuplier, peint par Léonard de Vinci entre 1503 et 1519, est considéré comme le chef-d'œuvre absolu de la science et de l'art occidental.
Et les sources qu'on a pour cette exploration en profondeur couvrent un spectre vraiment incroyable.
Ah oui, c'est dingue. On a un mélange d'analyses mathématiques très pointues, des archives historiques sur les pratiques d'atelier et même des rapports de police. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Je suis prête.
Le défi, c'est d'aborder l'œuvre la plus ressassée au monde en évitant les clichés. On cherche vraiment à déclencher ce moment d'illumination, ce fameux aha moment que quiconque écoute cette émission recherche.
Alors, la première étape pour déclencher cette illumination, c'est de changer complètement notre propre logiciel de pensée. Il faut arrêter de voir la Joconde comme une simple peinture.
D'accord, c'est quoi alors?
C'est avant tout l'aboutissement d'une vie entière de recherche scientifique. Mais avant de pouvoir déchiffrer les maths invisibles qui la structurent de l'intérieur, faut d'abord analyser sa surface physique. D'un point de vue purement mécanique, l'application de la matière sur ce bois représente une rupture technologique totale pour le début du XVIe siècle.
Ouais, nos documents parlent de près de 10 000 heures de travail. Je veux dire, c'est presque déconcertant d'imaginer une telle durée pour une si petite surface.
C'est vertigineux, oui.
Et ce qui est encore plus fou, c'est la technique du sfumato. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on passe ce panneau sous des faisceaux de rayons X surpuissants et on trouve absolument aucun coup de pinceau.
Zéro.
Mais comment c'est physiquement, ou plutôt chimiquement, possible d'appliquer de la matière sans laisser la moindre trace d'outil?
Bah, le secret réside dans l'utilisation extrême de ce qu'on appelle les glacis. En fait, Léonard ne posait pas une pâte épaisse sur le bois comme on l'imagine.
D'accord.
Il superposait des dizaines, voire des centaines de couches de peinture diluées, presque entièrement translucides. Chaque couche ne faisait que quelques micromètres d'épaisseur.
Attends, des micromètres? C'est invisible à l'œil nu.
Exactement. Optiquement parlant, ces couches fonctionnaient comme une série de filtres subtils. La lumière ambiante traverse ces filtres microscopiques, rebondit sur la préparation blanche au fond du panneau et remonte vers l'œil de l'observateur.
Waouh!
Et c'est ce trajet de la lumière à travers la matière qui crée cette illusion de brume, de douceur infinie, sans aucun contour net.
Mais c'est fou, c'est presque de la physique quantique appliquée à la peinture.
Et pour obtenir cette fusion parfaite sans démarcation, les analyses montrent qu'il estompait souvent la matière directement avec ses doigts.
Oui, tout à fait.
Nos sources mentionnent même que des empreintes digitales de Léonard ont été formellement identifiées, littéralement fossilisées dans la matière, du ciel et du visage. Il peignait pas seulement avec un outil, il sculptait la lumière avec sa propre peau. Et sous cette caresse optique, si je peux dire, il y a la précision froide de l'ingénieur. Les nouvelles imageries multispectrales ont révélé la présence du spolvero.
Ah oui, la technique des petits points, c'est ça?
C'est ça, une technique de transfert fascinante. Sous la peinture, on a découvert d'infimes points noirs de poudre de charbon, notamment autour du front et des mains.
Ce qui prouve qu'il a d'abord dessiné son modèle sur papier, c'est bien ça.
Exact. Il a percé les contours de petits trous, appliquer le papier sur le bois, puis tapoter avec un petit sac de charbon pour laisser un guide en pointillé parfait. C'est de la géométrie pure avant même que la couleur n'entre en jeu.
Ouais, et ce contraste entre l'ingénierie mathématique et la douceur organique m'amène à un détail très particulier. En observant ce visage qu'on croit tous connaître, il y a une absence qui frappe. Elle n'a ni cils, ni sourcils.
Ah, le grand débat des sourcils.
Bah oui, nos sources relaient un débat d'experts assez intense à ce sujet. L'historien de l'art Daniel Arras soutient que c'était simplement la mode mondaine de l'époque. Une épilation du front et des sourcils que la haute société aurait emprunté aux prostituées pour agrandir le visage.
C'est une théorie très solide, ouais.
Mais d'autres chercheurs pensent que c'est une altération chimique, non ?
En fait, ce qui est captivant avec ce débat, c'est qu'il trouve une résonance directe dans les textes historiques. Prends Giorgio Vasari, le célèbre biographe du XVIe siècle. En 1550, il rédige une description de la Joconde qui est absolument sidérante par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Il décrit avec minutie la façon dont les poils des sourcils naissent de la chair, l'implantation de chaque cil. Il va même jusqu'à affirmer qu'en fixant attentivement le creux de la gorge du modèle, on jurait voir battre le pouls de ses veines.
Purée, ce qui suggère fortement que le vernis d'origine, ou ben les restaurations un peu trop agressives des siècles passés, ont littéralement effacé ces micro-détails avec le temps.
C'est l'hypothèse la plus probable, oui.
Mais cette idée d'illusion de la vie, on la retrouve curieusement dans le paysage derrière elle. Quand je regarde l'arrière-plan, ça me fait penser au fonctionnement d'un objectif photographique moderne.
Ah, la profondeur de champ.
Ouais, on dirait que Vinci invente le flou de profondeur de champ. Plus la montagne est lointaine, plus elle devient indéfinie et bleutée, exactement comme notre cristallin gère la distance.
C'est la fameuse perspective atmosphérique.
Sauf que, il y a un élément dans ce décor qui semble contredire totalement cette perfection technique. La ligne d'horizon, entre la gauche et la droite du visage, n'est pas du tout alignée.
Ah oui, c'est très flagrant quand on y prête attention.
À gauche, la ligne d'eau est nettement plus basse qu'à droite. Comment l'inventeur de la perspective a-t-il pu commettre une grossière erreur de raccord comme ça ? C'est une erreur ou un choix délibéré d'un génie ?
C'est le réflexe naturel de notre époque très cartésienne de voir ça comme une erreur. Mais dans l'esprit d'un esprit universel comme celui de Léonard, une telle rupture est porteuse de sens.
Du coup, comment on doit le lire ?
Il faut lire le paysage comme un parcours philosophique de gauche à droite. À gauche, l'horizon est bas, le paysage est rocailleux, terreux, presque agressif, représentant un chaos naturel originel.
D'accord.
Au centre, ce chaos est subitement interrompu par le visage de Mona Lisa, et plus spécifiquement par l'harmonie de ce sourire suspendu. Puis, en passant à droite, l'horizon remonte brusquement. L'environnement devient aquatique, bleuté, presque céleste.
Ah ouais, je vois.
C'est l'essence même de la pensée humaniste de la Renaissance. L'être humain se dresse comme l'axe central, la force stabilisatrice qui fait le pont entre les tumultes de la nature terrestre et la sérénité des sphères célestes.
Voilà une transition subtile vers la véritable obsession du maître. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette asymétrie apparente dissimule en fait l'architecture interne du tableau. C'est un peu comme regarder un être humain.
Comment ça ?
Bah, on voit la souplesse de la peau, mais en dessous, il y a un squelette extrêmement rigide qui dicte chaque mouvement.
Nos sources pointent vers l'influence de Luca Pacioli, un moine mathématicien très proche de Léonard, qui a écrit le traité De Divina Proportione.
L'interaction entre ces deux hommes est cruciale. Pacioli a aidé Léonard à formaliser l'idée que les mathématiques sont la langue maternelle de l'univers. Et au cœur de cette langue, il y a le fameux nombre d'or, qui est approximativement égal à 1,618.
Et quand on applique ça à la Joconde, c'est dingue.
Les résultats sont implacables. Le visage s'inscrit au millimètre près dans un rectangle d'or de 13 cm sur 21 cm.
13 et 21, c'est pas au hasard, c'est des nombres de la suite de Fibonacci.
Exactement. Des nombres consécutifs dont le rapport génère justement la proportion dorée. Et ça s'arrête pas au visage. Il y a cette fameuse spirale d'or. En découpant l'espace avec ses proportions, on peut tracer une spirale logarithmique parfaite.
Oui, celle qui part du centre du visage.
C'est ça. Elle commence exactement à la pointe du nez, s'évase pour englober l'arrondi du menton, remonte pour frôler précisément le sommet du crâne et s'élargit encore pour redescendre, pointer directement sur son poignet et son nombril.
C'est bluffant! Surtout quand on sait que cette même courbure géométrique régit la forme d'un ouragan, la coquille d'un nautile, ou même le déploiement des bras de notre galaxie.
C'est l'illustration littérale du microcosme reflétant le macrocosme. Mais permets-moi de faire l'avocat du diable une seconde.
Je t'en prie.
On est au 21e siècle, on a des ordis surpuissants, on adore plaquer des grilles sur tout. Face à toutes ces lignes, ces rectangles et cette spirale, est-ce qu'on ne surinterprète pas un peu aujourd'hui ? Vinci a-t-il vraiment calculé tout ça avec une règle ?
C'est une critique très fréquente, ouais. Mais il faut comprendre le concept de constante universelle chez ce génie. Léonard observait, mesurait, disséquait sans arrêt.
Donc pour lui, c'était naturel.
Pour lui, la peinture était une science, universelle permettant d'égaler la création divine. La géométrie n'était pas un outil externe qu'il fallait forcer sur la toile, c'était devenu sa grammaire interne.
Ouais, il percevait l'harmonie du monde à travers ses rapports.
C'est ça. Qu'il ait tracé consciemment chaque ligne avec une règle, ou que sa main ait naturellement suivi l'architecture de ses dizaines d'années d'études, le résultat est le même. Cette omniprésence mathématique donne au modèle une vibration divine.
Certains y voient même des échos de la déesse Isis, non?
Tout à fait, la figure antique de la féminité créatrice.
Cette impression d'intemporalité est renforcée par un effet optique assez troublant mis en lumière par le chercheur Thierry Gallier, un effet de morphing intégré au tableau.
Ah oui, l'analyse des deux moitiés de visage, c'est fascinant.
Quand on divise le visage en deux le long de l'axe central, c'est fou. La partie droite nous montre une femme assez jeune, pleine de vie, avec l'œil pétillant. Mais si on occulte cette partie et qu'on regarde juste la moitié gauche, bah c'est une toute autre histoire.
C'est radicalement différent, oui.
Faire de deuil.
Et le coup de génie absolu, c'est que ces deux temporalités, la jeunesse et la vieillesse, fusionnent au centre sans aucune couture visible. Notre cerveau capte ces deux états simultanément.
Ce qui provoque ce malaise fasciné face à son sourire, quoi.
Exactement, elle contient le passage du temps entier dans une seule expression.
Bon, c'est captivant de voir comment le temps est manipulé dans l'œuvre. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on a découvert récemment une sorte de sauvegarde de sécurité qui nous montre la création de l'œuvre en temps réel.
La fameuse jumelle du Prado.
Quelle ironie quand on y pense. On passe des siècles à scruter une toile sombre alors qu'un backup parfait prenait la poussière en Espagne.
L'histoire de cette copie au musée du Prado à Madrid est un véritable séisme dans l'histoire de l'art. Pendant très longtemps, on a cru que c'était une banale réplique nordique exécutée bien plus tard.
Son fond était tout noir, c'est ça, hein ?
Entièrement goudronneux, oui. Et on pensait qu'elle était peinte sur du chêne. Jusqu'à cette fameuse demande de prêt du Louvre en 2012.
Le Louvre demande la toile, le Prado la nettoie, et là c'est le choc.
Un vrai choc thermique. Déjà, le bois n'est pas du chêne, mais du noyer. Un bois qui a incroyablement bien résisté au temps, bien mieux que le peuplier fragile du Louvre.
Et ensuite, en retirant ce vernis noir, ajouté au XVIIIe siècle, il voit apparaître exactement le même paysage.
Mais avec de couleurs éclatantes.
Fini le filtre sépia jaunâtre du Louvre.
Le teint est de porcelaine, le ciel est d'un bleu azur perçant.
C'est comme nettoyer la lentille crasseuse d'un télescope et découvrir une nouvelle planète. Mais la vraie découverte, elle est sous la peinture.
Oui, grâce à la réflectographie infrarouge. Les scientifiques ont trouvé, sur la toile de Madrid, les mêmes repentirs que sur l'original du Louvre.
Un repentir, on rappelle, c'est une correction faite en cours de route.
C'est ça. Une épaule abaissée, la position d'un doigt modifiée. La copie du Prado montre très précisément les mêmes erreurs et corrections que le maître effectuait sur la version originale.
Mais pourquoi un élève s'amuserait-il à copier minutieusement les ratures et les erreurs du maître en temps réel ? Dans un atelier normal, on attend que l'œuvre soit finie pour faire une copie propre, non ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça prouve que l'atelier de Vinci n'avait rien de normal. Ce n'était pas un studio de production classique, c'était un laboratoire scientifique en constante évolution.
Ah, je vois.
L'élève peignait côte à côte avec le maître. Il étudiait le processus intellectuel en temps réel pour documenter l'évolution de la pensée de Léonard.
Et sur l'identité de cet apprenti, les théories ne manquent pas. Francesco Melzi, le disciple studieux, ou alors Salai, l'élève favori androgyne.
Celui qui a peint Mona Vanna, la version dénudée.
Ouais, ou même des disciples espagnols comme Fernando Yanez. Bref, le mystère reste entier. Mais il y a un dernier détail technique fou avec cette copie. Un chercheur a superposé numériquement les deux tableaux et a remarqué un décalage de 5 cm dans la perspective.
Et ce détail des 5 cm est tout sauf anecdotique. Ça correspond à la distance moyenne entre nos deux pupilles humaines.
Attends, vraiment ?
Oui, c'est précisément cet écart qui permet à notre cerveau de calculer la profondeur. Si on place ces deux toiles dans un stéréoscope, notre cerveau fusionne les deux images plates pour créer une illusion de tridimensionnalité.
Et oups, c'est la toute première image 3D de l'histoire.
C'est l'hypothèse vertigineuse. Sachant que Léonard rédigeait des prêtés sur la vision binoculaire, imaginez qu'il ait placé son élève à un angle spécifique pour créer ce relief, c'est du génie.
C'est quand même fou. On a cet objet parfait, conçu comme un portail spirituel, avec ses maths divines, sa 3D, sa physique. Et pourtant, son existence physique réelle a été un chaos absolu. L'œuvre n'a pas arrêté d'être trimballée, maltraitée.
Son parcours historique est l'antithèse de sa stabilité géométrique, ça c'est sûr.
François Ier l'achète pour une somme astronomique en 1518. Elle passe par Fontainebleau, finit à Versailles.
Elle fera même un passage dans la chambre de l'impératrice Joséphine aux Tuileries.
Et puis vient le fameux 21 août 1911, le vol.
Ah, l'affaire Vincenzo Perugia.
C'est incroyable, un modeste vitrier rentre au Louvre un lundi jour de fermeture, il décroche les 90 kilos du cadre, sort le panneau, le glisse sous sa blouse et rentre chez lui. Le lendemain, un peintre vient faire une esquisse et trouve le mur vide.
Et l'incompétence de la police frise le burlesque. Ils procèdent à des arrestations totalement absurdes.
Ils ont quand même jeté en prison le poète Guillaume Apollinaire.
Oui, et ils ont interrogé Pablo Picasso longuement, juste parce qu'il avait acheté des statuettes volées par un vague ami d'Apollinaire des années avant.
On traite Picasso et Apollinaire comme des voleurs de tableaux. C'est hilarant. Et pendant ce temps, folie médiatique totale. Une récompense de 50 000 francs. À Nice, un char de carnaval défile avec un âne portant le cadre vide.
Les gens faisaient la queue au Louvre juste pour regarder le mur vide.
Ce qui me fait poser cette question. Au final, si Perugia n'avait jamais caché ce tableau sous sa blouse, est-ce que Mona Lisa attirerait quand même 20 000 visiteurs par jour aujourd'hui? Le vol n'est-il pas le véritable créateur du mythe?
C'est tentant de le voir comme ça, de réduire son aura à un accident. Mais il faut séparer la mécanique de la célébrité moderne de la valeur inestimable de la recherche de Léonard.
Donc le mythe existait déjà.
Oui. Bien avant le vol, au XIXe siècle, des romantiques comme Théophile Gautier en faisaient déjà l'archétype de la femme fatale. Le vol a juste agi comme un immense porte-voix.
Et après ça, elle a dû survivre à Göring pendant la Seconde Guerre, cachée à Brest. Et en 1956, un étudiant bolivien lui jette un caillou et lui abîme le coude gauche.
Elle agit comme un miroir parabolique qui concentre toutes les passions humaines. La possession, l'obsession, la destruction.
Bon, si on résume, le tableau est un vrai millefeuille. En surface, un sfumato révolutionnaire. En dessous, une rigueur mathématique divine. À côté, une jumelle espagnole qui révèle une 3D cachée. Et autour, un roman policier rocambolesque. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie?
Ça signifie que l'art n'est pas qu'une question de beauté esthétique. C'est une intersection pure entre la science, les mathématiques et l'histoire humaine. Et que l'information prend tout son sens quand on développe notre esprit critique.
C'est le message pour notre public. La prochaine fois qu'on observe un phénomène apparemment simple dans la nature ou l'art, cherchons la spirale d'or ou le brouillon qui s'y cache.
Et pour clore cette exploration, il y a une dernière réflexion non abordée directement jusqu'ici. Les archives montrent que la Joconde n'a jamais été livrée à son commanditaire, Francesco del Giocondo.
Attends, jamais ?
Jamais. De Vinci l'a gardée avec lui pendant plus de 10 ans, la modifiant sans cesse jusqu'à sa mort en France.
Mais pourquoi ?
Ce visage androgyne, ce mélange de mort et de vie, doté des proportions de l'univers, n'était peut-être plus du tout le portrait d'une riche Florentine.
Mais quoi alors?
Le miroir intime de Léonard lui-même, sa tentative ultime et inachevée de peindre l'âme du monde, c'est une énigme laissée à la méditation de quiconque nous écoutera aujourd'hui.
Waouh! Le monument lisse s'effondre définitivement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée vertigineuse. Restez curieux et à la prochaine!